des livres plein les oreilles. C'est lorsqu'on a un rendez-vous hebdomadaire comme ça qu'on voit à quel point le temps passe vite. Bonjour, c'est Clotilde Seuil avec vous et c'est l'émission « Des livres plein les oreilles » qui commence en ce 19 octobre 2017. Alors aujourd'hui, je vais avoir la chance de m'entretenir avec André Vincent autour de l'œuvre de Fred Vargas. Je vais aussi recevoir Serge Bradet et puis Yannick Olassa qui est désormais une habituée chroniqueuse de cette émission. Notre invitée principale aujourd'hui sera Nathalie Leclerc, et oui, la fille d'eux. Et justement, on lui demandera, est-ce que c'est très facile d'être la fille de Félix Leclerc? Certainement pas. Alors, rendez-vous dans quelques secondes avec André Vincent autour de l'œuvre de Fred Vargas. Bonjour André.
Bonjour Clotilde.
Comment allez-vous, André?
Ça va très bien, vous de même?
Bien, merci beaucoup. André, je suis contente que vous ayez choisi du Fred Vargas parce qu'on pense toujours que lorsqu'une auteure comme cette femme est hyper connue, on se dit « Oh, ils doivent en parler souvent ». Eh bien non! Bizarrement, on n'a pas beaucoup évoqué Fred Vargas à cette émission-là et je vous remercie de le faire. Pourquoi Fred Vargas, André?
Bon, j'ai une histoire un peu particulière concernant Fred Vargas. Je dois dire que je l'ai redécouverte en quelque sorte il y a quelques mois, mm-hmm. parce que j'avais eu un premier contact avec un roman de Fred Vargas il y a pas mal d'années déjà, mm-hmm. puis je dois dire que j'avais pas du tout accroché à ce moment-là, même que j'avais pas complété l'écoute de l'ouvrage. Et là, pourtant, je sais que beaucoup de gens en parlaient et tout ça, et il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'écouter un roman d'elle qui s'appelait « L'homme au cercle bleu ».
Oui.
Et là, ça a cliqué tout d'un coup.
Est-ce que c'est son premier, ça, je pense? Que...
Oui, je pense que c'est un des premiers à tout le moins, là. Et ça a tellement cliqué que je me suis mis à en lire plusieurs autres, mm-hmm. Dont celui dont on va parler peut-être un peu plus aujourd'hui, dans si ça vous convient.
Bien sûr, dans Les Bois éternels. Hein?
Voilà,
c'est
voilà.
Ça.
Alors, tout d'abord, je dois dire que ce qui me plaît beaucoup chez Fred Vargas, c'est l'originalité de son écriture, bien sûr. C'est,
ah oui.
C'est un roman policier. Peu ordinaire. Hein. C'est mm-hmm. vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les romans policiers.
Qu'est-ce qui est différent? Parce que, est-ce que je peux vous ouvrir une parenthèse et vous faire une confidence? Pour l'instant, je n'arrive pas encore à apprécier Fred Vargas. Alors, je me dis que ça va m'arriver, puisque vous venez de nous raconter que ça vous est arrivé, mais je ne sais pas, je me mélange dans les personnages et tout ça. Alors, quand quelqu'un me dit, comme vous, André, en qui j'ai toute confiance, qui me dit « Ah, ça n'a rien à voir avec les autres romans policiers », qu'est-ce qui est différent?
Bon, d'abord, je dirais qu'il y a beaucoup de poésie chez Fred Vargas et toute sa façon d'aborder son sujet. Le fait que le héros ou ses héros principaux, notamment là, dans la série dont on parle, qui est le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg,
voilà.
est quelqu'un de complètement à part des autres, qui on a là, au départ pas l'impression qu'il a un plan d'attaque, mm-hmm. qu'il a une stratégie. Et pourtant, bon an, mal an, de fil en aiguille, on arrive à un dénouement. Mm. Ce qu'il y a de particulier aussi chez Fred Vargas, c'est que c'est un mélange de poésie et une utilisation de la langue française que moi, j'adore vraiment. Là,
oui.
Elle sait jouer avec les mots apportés dans des romans qui ont un caractère tragique, mais un élément aussi d'humour et mm-hmm. de comique parfois. Donc, c'est tout plein de rebondissements. Alors, pour parler un petit peu du
oui.
roman Dans les bois éternels...
Alors, de quoi s'agit-il?
Ça part donc du meurtre de deux jeunes hommes à Paris. Et le caractère de ces meurtres-là fait en sorte que c'est le responsable des enquêtes liées au trafic de drogue, là, mm-hmm. qui voudrait avoir le dossier, mais avant de lui confier Jean-Baptiste Adams Bergotien, que ce soit lui qui commence à amener l'enquête, parce que lui, il croit que c'est tout à fait autre chose.
Okay.
Et l'avenir va nous démontrer, bien sûr, que son intuition était
la bonne,
parce que ça, de fil en aiguille, on mm-hmm. va se retrouver avec lui en Normandie, et on constate que c'est beaucoup plus complexe que ça, que ces mm-hmm. deux meurtres-là en cachent d'autres.
Oui, oui, oui.
Beaucoup
oui, oui.
plus mystérieux, pour des raisons bien équivoques. Et là, mm-hmm. on va jouer avec des questions de personnages qui ont des dédoublements de personnalité. Mm-hmm. Et on livrera pas, bien sûr,
non.
le suspense, mais c'est un rebondissement très imprévu.
OK.
Et pour vous dire jusqu'à oui. quel point il y a de la poésie et des imprévus là-dedans, on retrouve tout plein de personnages dans l'équipe d'Adamsberg,
oui.
aussi curieux les uns que les autres, qui ont des habitudes curieuses. Mm. Son lieutenant qui est un buveur de vin blanc et qui cache son vin blanc dans des recoins du commissariat. On en a un qui a besoin de dormir à tous les 3-4 heures, puis qui a installé des matelas dans un local. Et on a même un chat bien spécial qui habite le commissariat et qui s'appelle La Boule, et qui, même si sa propriété à lui, c'est d'être couché à peu près 23 heures sur 24, il bouge pas du même endroit pendant des heures.
D'où la
boule. Pourtant, il va jouer un rôle important dans cette enquête-là. Il va sauver la vie de quelqu'un.
C'est
après
vrai.
Avoir parcouru des centaines de kilomètres pour retracer
wow.
l'inspecteur qui est disparu.
Wow.
Alors, c'est vraiment hors de l'ordinaire comme roman policier.
D'accord,
comme je le
d'accord.
disais, là.
Alors, je vais rappeler le titre tout de suite, « Dans les bois éternels ».
Oui.
Et puis, évidemment, André, je suis allée faire une petite fouille archéologique, si
oui.
j'ose dire. Non, non, mais je suis allée voir ce qui était disponible ici. Évidemment, l'œuvre, dans sa totalité, n'y est pas, mais quand même, on a beaucoup de choses hein, de Fred Vargas.
Au SQLA, dont un
oui.
des derniers, justement,
oui.
là, « Les temps glaciaires », qui
voilà.
également met en,
voilà.
en évidence l'équipe d'Adamsberg. Là.
Voilà, et je peux vous dire que le tout dernier, la toute dernière parution est en train d'être lue en ce moment chez Vues et Voix, donc devrait être disponible quoi, d'ici peut-être 2 mois, quelque chose du genre. Excusez-moi, je n'ai pas le titre. Ah, quand sort la recluse, me dit mon Mathieu d'amour de l'autre côté de la vitrine, qui est une encyclopédie ambulante, que voulez-vous. Alors donc, quand sort la recluse, qui va sortir en audio adapté très rapidement et qui sera également disponible via SQLA, via la grande bibliothèque.
Je le sinon... lirai certainement, avec plaisir.
D'accord. Alors sinon, vous savez qu'il y a Petit traité de toutes les vérités sur l'existence. Ça m'intéresserait bien de lire ça. Il y en a un autre qui s'appelle L'armée furieuse. Ceux qui vont mourir te saluent. Coule la Seine. Est-ce que vous avez lu tout cela?
Pas ceux-là.
Oh, vous avez du retard, hein?
Oui. J'en ai lu 6 au moment où on se parle.
Bon, il y a Un lieu incertain.
Voilà.
Voilà.
Qui, excellent et qui met, je pense, de mémoire également, là. L'équipe d'Adamsberg.
Voilà. Il y a Sans feu ni lieu. Et puis aussi...
Oui, et ça, j'attire votre attention là-dessus.
Oui, bien, allez-y donc.
Ce sont d'autres enquêteurs bien particuliers.
Ah.
C'est la série qu'on appelle sur les évangélistes. C'est le surnom
okay.
qu'on leur donne. Et c'est à lire, vous allez voir, c'est absolument déroutant et hors de l'ordinaire.
D'accord. Et puis, bon, Pars vite et reviens tard, qu'on a bien connu parce que ça a donné lieu à un film... Et il y a aussi « Sous les vents de Neptune ».
Oui, qui se déroule en partie au Québec.
Voilà, exactement. Alors, c'est du Fred Vargas. Et pour les gens qui apprécient Fred Vargas, à un moment donné, je vais bien finir par m'y mettre, mais il faudrait d'abord que je tombe en retraite, je pense.
Parce que il faut là, justement pas se laisser arrêter par ce côté un petit peu déroutant au départ,
ouais.
mais aussitôt qu'on en a lu une quelques pages, on embarque et on ne veut plus en sortir.
C'est ce que tout le monde me dit et je vous remercie de me confirmer cela et de confirmer cela à tous les auditeurs qui partagent cette émission avec nous aujourd'hui. André Vincent, merci beaucoup, à bientôt.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Et je vous invite à rester en onde quand l'émission sera diffusée pour retrouver d'abord la voix violoncelle de Félix Leclerc. La voix violoncelle, c'est comme ça que Nathalie Leclerc appelle la voix de son papa. Et je vais ensuite parler avec Nathalie Leclerc qui va nous parler de l'île d'Orléans. Et qui va bien sûr évoquer beaucoup pour nous le souvenir de son papa, elle qui l'a évoqué dans un livre qui s'appelle « La voix de mon père ». Merci André, au revoir.
Supporter le difficile et l'inutile. Y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles pour oublier grandes blessures dessous l'armure. Été, hiver, y a le tour de l'île, l'île d'Orléans. L'île, c'est comme Chartres, c'est haut et propre, avec des nefs, avec des arcs, des corridors et des falaises. En février, la neige est rose, comme chair de femme. Et en juillet, le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai, à marée basse, voilà les oies. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies. Mais nous, les gens, les descendants de la Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme les arbres. Mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai. Écoute encore. Maison de bois, maison de pierre, clocher pointu. Et dans les fonds des pâturages, de silence, des enfants blonds nourris d'azur comme des anges jouent à la guerre. Imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière, parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut la mettre en mini-jupe and speak English. Faire ça. L'île d'Orléans, notre fleur de lys, mais c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai, raconte encore. Sous un nuage, près d'un cours d'eau, c'est un berceau. Et un grand-père au regard bleu qui monte la garde. Il sait pas trop ce qu'on dit dans les capitales. L'œil vers le golfe ou Montréal guette le signal pour célébrer l'indépendance. Quand on y pense, c'est y en France, c'est comme en France, le tour de l'île. 42 000 comme des vagues, les montagnes, les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. Ça signifie l'heure est venue. Si t'as compris,
il met à nouveau son pied sur la chaise et un silence se fait entendre. En guise de rappel, il entame de sa voix violoncelle le tour de l'île. La tête posée contre le mur de la coulisse, je le regarde, et la petite fille que je suis comprend, à ce moment précis, qu'il est toute ma vie, pour le reste de ma vie. Bonjour Nathalie Leclerc.
Oui, bonjour.
Cette voix violoncelle...
Vous me donnez envie d'aller faire le tour de l'île.
Oui, hein, mais vous, vous êtes sur place. Alors,
ben oui.
C'est ça. Donc, vous allez pouvoir, vous, comme je vous envie. Nathalie Leclerc, c'est un grand plaisir que vous nous faites en ayant accepté cette invitation pour nous parler de ce livre, La voix de mon père. Ça aurait pu s'appeler d'ailleurs aussi La voix violoncelle parce que c'est une expression que vous utilisez souvent dans ce livre-là. Hein.
Oui, oh ben, c'est vraiment ça aussi. Hein.
Oui.
Quand j'étais une petite fille, puis il m'appelait, il me parlait de la nature et tout ça, tout ce que j'écris dans le livre, ben pour moi, c'était ça. C'était vraiment une voix violoncelle. J'ai déjà joué un peu de violoncelle aussi.
C'est vrai, en plus du piano.
Ouais, un peu de violoncelle. Mais j'avais l'impression de jouer un peu avec la voix de mon père.
Ouais, c'est vrai.
À l'époque. Oui,
mais,
oui, oui.
Mais vous savez que d'ailleurs, on dit en parlant du violoncelle que c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine. Hein.
Ah, ben voilà, j'ai rien inventé.
Alors, Nathalie Leclerc, si on commence par le début, comme vous le faites d'ailleurs très bien avec ce livre, La voix de mon père, alors évidemment disponible maintenant en version audio adaptée, sinon nous n'en parlerions pas. Ce livre, donc, commence par votre papa, qui n'est pas manuel pour deux sous, mais alors vraiment pas, à qui son propre papa lui disait d'aller écrire pendant que les autres travaillaient. Va donc écrire ce qu'on fait.
Oui.
Et bien, il n'a jamais arrêté. Hein?
Oui, oui. C'est son père, finalement, qui a donné l'idée de faire ça. Il aurait bien aimé mon père être manuel, par exemple. Il a essayé longtemps, même chez nous ici, quand j'étais une petite fille, je le voyais travailler dans son établi.
Oh.
Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais trop, mais il aimait bien les vis, les clous... le bâtir des choses, mais que son père lui dise, va donc écrire, ah, tu nous déranges, va donc écrire ce qu'on fait, là. Ben, c'est ça, c'est ce qu'il a fait, il a bien écouté son papa.
Mais en plus, il devait avoir peur de se blesser, peut-être aussi, quand on est guitariste, on fait attention à ses mains aussi, hein.
Ouais, mais il y avait toujours des gants, tout le temps.
Ah oui.
Je me rappelle, oui. Ça m'impressionnait, petite fille, de le voir toujours avec des gants, quand il faisait un petit peu frais l'automne ou le printemps, mais tard, il gardait ses gants très longtemps. Oui, c'est vrai.
Alors,
il avait aussi dans ses mains,
oui.
Parce qu'il ne jouait pas avec un pic de guitare.
Non, hein?
Il jouait avec ses ongles.
Ben oui.
Alors, il y avait une main aux ongles courts,
oui,
et une main aux ongles longs.
Comme tous les guitaristes, oui, effectivement.
Oui, c'est ça. Et alors, quand on est une petite fille, on ne comprend pas trop pourquoi.
Non, c'est ça.
Ouais.
Et Nathalie Leclerc, on peut évidemment difficilement, et vous n'avez d'ailleurs pas pu le faire, dissocier l'île d'Orléans, hein, de votre papa.
Pardon. C'est une île qu'il avait découverte, et vous l'expliquez très bien, à un moment donné où il était à la recherche, et j'ai trouvé ça très beau, de la lenteur.
Oui, c'est vrai. Hein, vous, mais c'est sa mère, c'est sa maman qui venait de mourir aussi. Sa mère venait de mourir, puis elle a besoin de se retrouver. Et on lui a parlé de l'île d'Orléans. On lui a dit que ses ancêtres, mes ancêtres aussi, les Leclerc, étaient arrivés sur l'île en 1662. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'il a dit « Je vais aller la voir, cette île-là, je vais aller la visiter.
Oui. »
Puis, il a fait le chemin tout seul. Il est arrivé sur l'île. À l'époque, hein, on est dans les années... 5, je ne suis pas très bonne en date. Dans les années 40, à peu près, 45.
Oui, oui.
Et elle n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de maisons. Alors, il y avait beaucoup de champs,
oui.
Des fermes, des vaches laitières. Et il est vraiment tombé amoureux de cette île-là.
Mais je comprends.
Il a trouvé la terre aussi de ses ancêtres.
Mais on tombe encore amoureux régulièrement de cette île-là, même si elle est beaucoup plus peuplée, même si maintenant il y a ces pics électriques là, qui sont venus bousiller en tout cas une partie de son paysage.
Il en fallait quand même.
Ben, il en fallait, c'est ça.
C'est
oui, c'est sûr.
Mais même moi, je pars en voyage souvent pour revenir, comme la fameuse chanson, alors partir pour revenir.
Puis
je tombe amoureuse à chaque fois de l'île dès que je la vois.
Oui.
Dès que je la vois au loin qui apparaît avec le pont de l'île, je l'aime profondément.
D'ailleurs, vous dites très joliment en page 16, « Dès lors, ce lieu, donc l'île d'Orléans, entre en lui comme la barre du jour qui se faufile parmi les nuages dans les petits matins d'automne.
Mm-hmm. » C'est vrai.
Il y a, j'aurais envie, puisque là je viens de parler de votre écriture, vous y êtes mis tard à l'écriture, hein, Nathalie Leclerc. Vous n'avez jamais osé auparavant, ça vous a pris pas mal d'années. Hein.
Ouais, j'ai toujours écrit par contre. Tout le
vous
temps,
avez
tout
toujours
temps,
écrit, temps. Mais vous avez eu cette mésaventure terrible que j'aimerais que vous nous racontiez, que moi j'ai lu bien sûr dans le livre, mais... Parlez-nous-en de cette professeure ou une sœur, hein, je ne sais plus.
Oui, une religieuse.
Une religieuse.
Une méchante religieuse. Ouais. Des fois, il y a des gentilles religieuses, mais celle-là, elle était, elle était méchante. Elle m'a brisée, elle m'a cassée, vraiment. Je ne veux pas lui donner tout l'odieux, là, mais quand même, oui, beaucoup, beaucoup. J'avais un texte, j'avais écrit un texte pour j'étais en cinquième année, j'avais 10 ans. J'avais un texte à écrire et on a remis nos copies. Et le lendemain matin, elle a lu mon texte devant toute la classe. Et j'étais fière, moi, si gênée, si timide, pas très bonne à l'école non plus, j'avais pas de grands résultats. Et je me disais, mon doigt doit aimer mon texte pour le lire comme cela, quelle joie! Et plus elle lisait le texte, plus je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de sournois à l'intérieur de son regard.
De sa lecture.
Je comprenais pas. Et quand elle a terminé le texte, elle a dit à toute la classe, devant tout le monde, « Alors, ben, je viens de vous annoncer, je vais vous apprendre le mot « plagiat ». Ce que Nathalie Leclerc a écrit, c'est certainement pas elle qui a écrit cela. Elle a sans doute copié
son père.
Ah. Alors, ça a été abominable pour moi. Je me rappelle, j'étais très timide, mais j'ai dit, ben voyons, non, jamais. J'ai jamais copié mon père. Mais tous les yeux, tous les élèves, une trentaine d'élèves autour de moi, ils m'ont regardé en disant, mon tour, tricheuse, copieuse. Et c'était faux, c'était complètement faux. Mais elle m'a vraiment fait très, très mal. J'étais très sensible, très, très émotive.
Ah oui.
Et ça m'a pris des années à essayer de passer par-dessus.
Par-dessus,
ça.
Pour finalement, montrer ce que vous écrivez.
Ouais.
Voilà.
C'est ça, mais ça m'a pris énormément de temps. Puis je vous dis, j'ai plein d'amis. Et quand mon livre est sorti, ils n'avaient jamais rien lu de moi. J'étais trop timide pour faire encore. J'ai quand même 49 ans, là. Et j'avais encore, j'étais encore gênée, timide de faire lire mes choses. Puis c'est quand mon livre est sorti que là,
Exactement. Ben oui, mais oui, il faut signaler, entre autres, par exemple, une Josée Blanchette, dont la vie est quand même très, très pointue. Enfin, je veux dire, on sait que c'est quelqu'un qui n'ira pas mettre et diffuser, éditer n'importe quel texte. Eh bien, un jour, elle a placé un de vos textes dans son... Oui.
Ah oui, puis je suis restée anonyme. Alors, j'ai vraiment été enchantée, éblouie. Puis je me suis dit, ben, coudonc, si elle a...
Ben oui.
Pas du talent.
C'est une très belle écriture. Je peux en témoigner. Nathalie Leclerc, la voix de mon père, c'est le titre de votre livre.
Oui.
Comment t'appelles-tu? Ça, c'est dans votre livre, page 43. Alors, donc, on vous entend certainement dire Nathalie Leclerc. La fille de Félix, je m'y suis habituée, écrivez-vous. Je suis la seule fille au monde à pouvoir dire je suis la fille de Félix Leclerc. Quelle veine! Mais la phrase d'en dessous, c'est veine. couteau à deux tranchants.
Mais oui, c'est sûr.
J'en Qu'est-ce qui vous fait en rire?
Ben, j'en ris parce que je me fais rire moi-même, mais c'est vrai que quand j'ai... Quand j'étais toute petite, c'est certain qu'on nous remarquait. Je parle de mon frère aussi. On nous remarquait en tant qu'enfant d'eux. Ouais. On avait les yeux sur nous pour savoir si on ressemblait à notre père, si on avait le même talent que lui, si on était des êtres exceptionnels. Alors, il fallait toujours être parfait. La barre est très, très haute. C'est lourd à la longue. Je pense que c'est pas la seule à dire. Là.
Non, c'est
Tous les
certain.
Enfants d'artistes aussi, c'est comme ça. Mais on finit par s'y habituer. Et puis, c'est quand même mieux être la fille de Félix qu'être la fille d'un bandit.
Absolument. Hein? Ah, ben ça, remarquez, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai
c'était
aussi.
C'était les phrases de ma mère à l'époque. Et qu'elle nous disait.
Dites-moi, il y a aussi de très, très belles pages sur le départ. Vous aviez beaucoup de mal à dealer avec ça. Je m'excuse pour ce très, très vilain terme anglophone, mais c'était ça. Enfin, vous aviez beaucoup de mal à vivre la séparation lorsque papa partait en tournée, tout ça. Et il y a eu même jusqu'au plus grand départ, hein, au moment de sa disparition, qui vous a laissé absolument... exsangue, enfin.
Oui, ça a été très, très, très difficile. C'est la peine de ma vie. Et puis, c'était le premier mort de ma vie aussi. Je n'avais jamais côtoyé la mort. Ça a été vraiment... ça a été abominable. Là, j'en parle pas mal dans le livre aussi. Oui. C'est encore difficile, mais là, ça va, la vie continue. Et puis, j'aime la vie et tout ça. Oui. Et il me porte encore toujours. Oui. Et j'ai fini par comprendre que, bon, c'est quand même un artiste. Je pouvais le relire. Je pouvais... Oui. Même s'il n'était pas là pour mes grandes questions. Il est mort, j'avais 19 ans. Alors, j'avais des questionnements, moi. J'avais des... Sur la vie, la philosophie, tout ça. Mais je pouvais trouver les réponses dans ses écrits. Alors, je me suis rendu compte que j'avais cette chance-là que d'autres n'ont pas. Il avait déjà écrit énormément, alors je peux trouver mes réponses dans ses écrits.
Et puis il y a, on va se quitter bientôt, c'est incroyable comment le temps passe vite, que voulez-vous, mais il y a cette magnifique image, bon, moi qui vais souvent sur l'île et qui suis très souvent allée sur la tombe de Félix, je n'ai encore jamais déposé de souliers comme le font beaucoup de gens, mais il y a cet épisode avec Raymond DeVos, lorsque vous allez sur la tombe de Félix et qu'il est très ému, alors il découvre comme tout le monde ses souliers et après un long moment de contemplation, vous l'entendez vous dire, c'est un bouquet de souliers, Raymond DeVos.
C'est magnifique. Parce que Raymond DeVos est un homme qui parle beaucoup, beaucoup.
Oui.
Qui était presque, je pense qu'il était un des meilleurs
amis. Un des meilleurs amis, oui, de votre papa.
Et moi, je l'aimais beaucoup aussi. Alors, il était là à ma naissance, hein, comme je disais au début du livre. Mais alors, quand je l'ai vu, on était tous les deux seuls sur la tombe de mon père, qui m'a dit ça. Après, le silence était magnifique. J'ai l'impression que un ange a passé.
Je peux vous dire, Nathalie, que dès que j'y retournerai, j'y penserai. Nathalie Leclerc, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et merci pour ce beau livre, La voix de mon père.
Merci beaucoup.
Au revoir. Des livres plein les oreilles. La suite. Ah, Félix Leclerc dont nous parlions, c'est parce que j'ai pas eu le temps, mais vous savez qu'il existe maintenant là-bas l'espace Félix Leclerc, qui est absolument merveilleux, avec des shows toute l'année, avec une exposition, et bien sûr, et c'est Nathalie Leclerc qui a monté tout ça. Il y a aussi le Sentier des Saveurs, il est juste de l'autre côté de la route, et c'est un sentier que Félix empruntait beaucoup pour aller jusqu'au fleuve. Je l'ai pris avec ma petite chienne. J'étais toute seule là. Mais à un tel point, je me suis fait peur. J'ai dit, s'il y avait des ours. Mais non, alors qu'il n'y a pas d'ours sur l'île. Mais en tout cas, c'était... Voilà. Alors, tout ça pour vous dire aussi, parce que j'oublie toujours de le dire, qu'après la chronique de mon ami Serge Bradet, que je vous présente dans quelques secondes, je vous lirai un extrait de ce livre, La voix de mon père, de Nathalie Leclerc. Alors, mon ami Serge Bradet est de retour en studio, toujours fidèle, Serge, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment
gentil.
Je suis
fidèle en amour et en amitié.
En amour aussi?
Mais surtout en amitié.
Ah bon, parce que sinon je vais prendre votre numéro de téléphone. Alors, de votre belle voix, parlez-nous, amenez-nous en Russie.
Oui, je voudrais juste vous dire, avant de commencer, j'ai été très touché par l'entrevue. C'était très, très beau. Et surtout, l'histoire des chaussures sur la tombe, j'ai jamais entendu parler de ça.
Non, vous ignoriez ça?
C'est très touchant.
Mais oui.
Très, 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 très touchant. Alors, oui, donc, je vous parle d'un livre qu'on vient tout juste de terminer d'enregistrer ici, 1917, Une passion russe. Alors, c'est un... de Max Gallo, de l'Académie française. Alors, quelques mots à partir d'une petite biographie de Max Gallo.
Qui vient de mourir. Hein?
Qui vient de mourir, le 18 juillet, tout récent. Alors, Max Gallo est le fils d'immigrants italiens. Il est né à Nice en 1932 et mort le 18 juillet 2017 à Vaison-la-Romaine. C'est un écrivain, historien et homme politique français également. Originellement chercheur en histoire, il se retourne ensuite vers la littérature avec des romans historiques qui constituent l'essentiel de son œuvre. Ses premiers romans, qu'il a appelés, lui, des ouvrages de politique fiction, ont été écrits sous le pseudonyme de Max Laughan. Je ne sais pas pourquoi, on ne le dit pas. Ouais. C'est un écrivain prolifique et biographe à succès. Il est élu membre de l'Académie française au fauteuil 24 le 31 mai 2007. Et en 81, il est élu député sous l'étiquette socialiste. De 64 à 2017, j'ai été vraiment étonné. Écoutez, c'est plus de 100 autobiographies, romans, des suites romanesques, des politiques fiction, des histoires-essais, des biographies, un conte, des essais et une collaboration. Savez-vous à quel livre il a collaboré?
Non.
Au nom de tous les miens, de Martin Gris.
Ah oui, c'est vrai.
Il a collaboré à ça.
C'est vrai.
Je l'ignorais. Dans les œuvres principales, ici, on donne trois œuvres principales. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est les trois apparemment qui se démarquent du groupe. Une sur Victor Hugo, ensuite le roman des rois et une série, la série La machine humaine. Alors, pour ce livre-là, 1917, Une passion russe, je suis allé un peu fouiller sur Internet, regarder un peu les commentaires à droite et à gauche. Ce qui ressort, c'est que gens qui disent Max Gallo a écrit d'excellentes biographies, entre autres Napoléon, Rosa Luxembourg, Louis XIV. Alors, sur ce livre-là, certains disent on est un peu resté sur notre fin.
Oui.
Bon, parce que beaucoup de gens auraient préféré voir une mise en contexte là, plus détaillée, puis beaucoup plus d'informations sur 1917. Mais il faut comprendre que en 200 pages, la majorité du livre porte sur février 1917 à octobre 1917.
Oui.
Alors, c'est vraiment concentré sur ça. Il faut comprendre que ces 10 mois-là,
oui,
vous avez eu la fin du régime tsariste, de la Sainte-Russie,
oui,
et octobre 1917, le régime communiste s'est installé.
Est-ce que c'est l'époque où Nicolas II et sa famille ont été...
Exactement.
C'est pendant ces 10 mois-là, d'accord.
Oui, février 1917, il a abdiqué au début mars, mais la révolution commençait à la toute fin février. Et il a abdiqué au début mars. Et en octobre... Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en février, lorsque la révolution est arrivée en février, ce n'est pas un régime communiste qui s'est installé. C'est un gouvernement libéral provisoire. Dirigé par Kerensky. Et ce qu'on voulait à ce moment, et les Soviets et les Soviétiques étaient là, mais en deuxième force politique.
D'accord.
Parce qu'au début, on voulait mettre fin à l'autocratie tsariste. Savez-vous qu'à ce moment-là, 1917, 80% de la population russe était paysanne. Ils ne possédaient pas leurs terres. Ils dépendaient des grands seigneurs ou de grands propriétaires fonciers. Certains grands seigneurs ou propriétaires fonciers possédaient un domaine de la taille de la Nouvelle-Écosse, de la France, certains. C'était hallucinant de voir ça comparé à aujourd'hui. Alors, donc, le gouvernement libéral provisoire s'est installé avec Kerensky, mais les Soviets ont manipulé, ourdi dans l'ombre, et le gouvernement soviétique russe s'est installé en octobre 1917 avec la fameuse prise du palais d'hiver des Russes. Alors, un siècle, parce qu'on est un siècle après la Révolution, est en 2017 commencé en février 17, les conséquences pèsent toujours sur le destin de la Russie et du monde. Parce qu'écoutez, on a assisté à ce moment-là à la fin du régime tsariste, début du communisme, et regardez tous les changements des régimes communistes qui se sont installés.
C'est incroyable.
Surtout après la Deuxième Guerre mondiale.
Mais oui.
Alors, il n'y avait aucun régime communiste avant 1917. Alors, les millions de vies qui ont été perdues.
Ah oui.
parce que Lénine, qui a commencé, qui a pris le pouvoir en 1917, et a été celui qui a succédé, c'est évidemment M. Staline.
Oui, bien oui.
Alors, et tout ce qui s'est...
Non, c'est fou.
Ah ouais,
c'est fou, c'est-à-dire tous les bouleversements qui ont touché ce pays-là.
Ouais. Alors, c'est ça. Gallo nous situe vraiment dans ces quelques mois-là, et il appelle ça, lui, des folles années. Des folles journées. Une folle année, mais des folles journées. Et ça a été une révolution fulgurante. Et ça, dans le livre, on le voit bien. Et à un moment donné, Lénine dit, ça va trop vite, la tête me tourne.
Ah oui.
Est-ce que tout se passe, là, en une journée, il se passe un million de choses, pas un million, mais un millier de choses qui changent le cours de l'histoire. Et évidemment, on s'appuyait à ce moment-là sur une nouvelle idéologie, le communisme, qui n'existait pas ailleurs dans le monde. C'était juste une théorie, c'était des écrits de Marx, d'autres auteurs. Et ça, évidemment, c'était sur la désespérance du peuple russe. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête, parce qu'à un moment donné, ils ont tué tellement de monde. Je me suis rappelé, moi, en France, à l'époque des Albigeois, les hérétiques, en 1300 quelque chose, où on a, à ce moment-là, les troupes royales sont entrées dans un village et les soldats ont dit « Comment on fait pour reconnaître les catholiques des hérétiques? » Et le maréchal a dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Et c'est un peu ce que Lénine et Staline ont fait. Ceux qui n'étaient pas communistes, à un moment donné, ils disaient « Écoutez, tuez-les tous, puis le régime reconnaîtra les siens. » Alors, il ne faut pas bouder son plaisir avec ce livre-là. C'est un livre intéressant. C'est sûr que c'est un peu frustrant parce que c'est un peu... on oublie des pans, on oublie des moments. Mais c'est vraiment concentré, encore une fois, sur ces 10 mois-là qui ont changé l'histoire. C'est vraiment, on nous cite à ce moment des citations de Lénine. Lénine a dit ça. Lénine s'est présenté devant le Soviet, devant la Douma avant que ce soit le Soviet. Et il a harangué Kerensky, le gouvernement. Et Kerensky a répondu ceci, tout ça. Alors,
C'est beaucoup d'informations, finalement. Et d'ailleurs, il y a les mauvaises langues qui prétendent qu'on s'est organisé pour faire ce livre-là à la va-vite avant son décès. Est-ce que vous avez senti ça aussi un petit peu?
On peut le sentir.
Sauf que ça n'enlève rien à l'intérieur.
Ça n'enlève rien. Absolument.
D'accord, Serge. Alors, 1917, une passion russe de Max Gallo.
Aux éditions
XO Éditions. XO Éditions, si vous avez vos yeux et si vous n'avez pas vos yeux, en version audio adapté via le SQLA. Merci beaucoup.
Oui.
Merci Serge, au plaisir. Alors, tel que promis, un extrait de « La voix de mon père » signé Nathalie Leclerc, avec qui je m'entretenais un petit peu plus tôt à l'émission. Alors, c'est une série, dans ce livre-là, une série de courts chapitres, et notamment celui-ci qui s'appelle « Les brouillons broyés ». Depuis plusieurs semaines, mon père, Félix donc, passe beaucoup de temps dans son bureau. Intrigué, je me faufile vers ce lieu et je suis estomaqué. La fenêtre est restée ouverte toute la nuit. Je découvre un déluge de paperasses, de livres, de poèmes manuscrits traînant pêle-mêle un peu partout. Un tremblement de terre, un tsunami. Il entreprend une relecture complète de ses écrits pour ne garder que les meilleurs textes. Meilleurs textes ? Il rêve de faire une sorte de pléiade avec son œuvre. Alors, de son lieu de travail, je l'entends rire, bouger, déplacer des papiers avant de nous dire durant le souper « Coudon ! Je les haïssais donc ben, les Anglais !» Et puis le voilà dans la cuisine, avec une énorme boîte remplie de brouillon. Sa calligraphie ressemble aux esquisses d'un peintre, profondeur de son âme récoltée au fil des jours, constance du temps, une goutte d'eau devenue stalagmite, une œuvre manuscrite. Il demande à ma mère ce qu'il faut faire de tous ces premiers jets écrits de sa main. « J'en ai plus besoin, hein ? On fait quoi avec ça ?» Elle lève les yeux de son châtelaine et regarde mon père sans savoir quoi répondre. Rapidement, elle lui dit d'en faire ce qu'il veut. Ce sont ses affaires, après tout. Il lève les épaules et va porter sa grosse boîte dans les vidanges, puis retourne s'isoler dans son repère. Cette poubelle a accueilli des documents d'une valeur inestimable, un certain matin de cris endormis. Une vie à tire-d'aile devenue papier broyé, envolée vers un brouillard de feuilles qui seront incinérées. Geste empreint du temps présent, Absence d'ambition face à l'avenir d'une œuvre manuscrite qui aurait pu devenir carnets inédits. Mon héros n'y pense même pas. Cette façon de faire rappelle la journée où il a quitté définitivement sa maison de Vaudreuil. Il n'a emporté que sa guitare. Qu'ont-il fait du reste ? Vendu aux enchères. Vous rendez-vous compte là de tout ce qui nous a été arraché sur un coup de tête comme ça ? Bon, j'en fais quoi ? Ben, on fait ce que t'en veux. Ok. Poubelle. Les manuscrits de Félix Leclerc, tous des inédits, des années et des années et des années d'écriture, quand on y pense, hein. Puis en même temps. Peut-être aussi qu'on a le principal, c'est du moins ce qu'il était en train de se dire, sûrement Félix Leclerc. En tout cas, ne manquez pas ce bouquin-là, La voix de mon père. La semaine prochaine, mes amis, la semaine prochaine, malheureusement, il ne sera pas en studio, mais c'est quand même, je vais quand même appeler ça de la belle visite. C'est Serge Bouchard, oui, oui, Serge Bouchard, anthropologue, animateur, chroniqueur à Radio-Canada, qui est né en 1947. Cet homme qui a fait des études d'anthropologie qui l'ont conduit notamment chez les Inuits de la Côte-Nord et dans le milieu des camionneurs au long cours. Depuis 1991, il a publié une vingtaine d'ouvrages dans lesquels se marient souvenirs et découvertes, connaissances et littérature, sagesse et émerveillement. Écrivain inclassable, il est considéré par plusieurs comme l'un de nos prosateurs les plus originaux. Il a reçu en 2015 le prix Gérard Morisset du gouvernement du Québec et il est devenu l'année suivante officier de l'Ordre national du Québec. Tu donneras vie aux barreaux de ta prison. Tu t'évaderas par la fenêtre ouverte de ton imaginaire. Rien ne peut t'empêcher de te recueillir devant une pierre humide, devant une clôture de broche. Rien ne t'interdit de résister jusqu'au dernier coup d'œil. Ce sont des écrits de Serge Bouchard que je vous lis là à l'instant. Je pourrais vous en lire un petit peu plus. L'humain, au temps où il avait les yeux ouverts, a toujours vu les mille facettes d'une chose, les mille sens d'un mot, les mille visages des bêtes, les mille couleurs d'une plante, ainsi que les liens mystérieux qui unissent le fer à l'étoile, le brouillard à l'arbrisseau, la montagne à la mort au corbeau, et le mélèze à l'enfantement. Dites-vous que si c'est un régal de lire à voix basse les mots de Serge Bouchard, si c'est un régal de l'entendre, les lire à haute voix, c'est un véritable bonheur aussi. On va notamment parler de ce livre « Les yeux tristes de mon camion » que j'ai entre les mains, qui est son plus récent hein, et qui a été enregistré et qui est maintenant disponible, évidemment, en formule audio adaptée. Et on retrouve dans ce livre-là quelques merveilles de personnages comme Massasoit, le vieux sage de la nation, Wampanoag, j'espère bien prononcer, Jean-Baptiste Faribault et Michel Laframboise, des aventuriers canadiens-français qui ont bâti l'Ouest canadien, ou encore l'oncle Yvan qui est revenu de la guerre alors que plus personne ne l'attendait, ou la tante Monique de Santa Monica. Et puis, saviez-vous qu'une vieille Honda était douée de paroles, qu'une grande tortue sacrée vivait dans la rue Pie-Neuf et qu'un camion des années 1950 avait des yeux et que ses yeux pouvaient parfois être tristes ? Eh bien voilà, c'est de tout cela dont nous parlerons la semaine prochaine avec Serge Bouchard, auteur de « Les yeux tristes de mon camion ». Et je retrouve avec un énorme plaisir Yannick Olassa. Bonjour Yannick.
Bonjour, c'est un plaisir partagé, hein, je l'ai dit.
C'est vrai, c'est vrai. Yannick, vous nous arrivez aujourd'hui avec, parce qu'il faut quand même que je vous représente aussi à l'occasion, peut-être que je ne le fais pas assez souvent, mais vous avez eu très longtemps un blog littéraire, hein?
Oui, oui, pendant 7 ans.
Pendant 7 ans, hein, parce que vous êtes une littérale dévoreuse, hein?
Oui, oui, moi je suis une bouquineuse boulimique en effet.
C'est ça.
Un peu moins ces temps-ci, mais je reprends le collier tranquillement.
Vous êtes du genre à avoir des piles de livres partout, à la maison?
Oh mon Dieu! Dieu, on compte plus le nombre de bibliothèques et le sous-sol est carrément envahi de piles de livres.
Bon, et je voudrais repréciser, et je sais que ça ne vous dérange pas, mais malheureusement, vous vivez avec la sclérose en plaques, hein? Et donc, ce qui vous oblige, ben, vous sortez beaucoup moins, évidemment, avec des bonnes périodes, avec des moins bonnes périodes, et donc ces livres qui vous accompagnent, hein, Yannick?
Oui, tout à fait, parce que depuis 6 ans, je ne travaille plus. Mm-hmm. Donc, je suis à la maison tout le temps et ça me donne l'occasion, hein, on dit à toute chose, malheur est bon, ça me donne l'occasion de m'adonner à ma passion qui
pour
est
la
littérature. Ah, oui, absolument.
Et puis, ça nous donne, nous aussi, l'occasion. J'aurais préféré que vous ne soyez pas du tout malade, mais ça nous donne aussi l'occasion de vous entendre, Yannick. Avec grand plaisir. Alors, parlez-nous, présentez-nous ce livre.
Bien, je vous parle d'une nouveauté au SQLA qui est Matricide. C'est un roman qui est paru au printemps dernier. C'est le premier roman de Catherine Raymond qui, en fait, est médecin. Elle fait présentement un post-doctorat en psychiatrie. Et elle a voulu écrire ce premier roman-là qui est un roman autofictionnel, je dois le dire, pour exorciser la honte après le suicide de sa mère en 2010. Donc, c'est un roman, c'est un récit très intérieur, très touchant et même troublant, je dirais, par moments, où Catherine, parce que le personnage s'appelle aussi Catherine, tente de survivre au suicide de sa mère. Elle avait avec sa mère une relation assez difficile. Je vous explique un peu. Sa mère est belle, blonde, teint pâle, des beaux traits, les yeux bleus. Et elle, elle est en fait soi-disant laide. C'est-à-dire, elle a les cheveux foncés, la peau foncée, les yeux foncés, beaucoup de poils. D'ailleurs, sa mère l'appelait son singe ou son ours. Donc, vous voyez, il y a comme une espèce déjà de contraste entre les deux. Et elle veut être aussi belle que sa mère, mais bon, semblerait qu'elle n'y arrive pas. Et sa mère ne veut pas qu'elle soit belle, d'ailleurs. Elle axe sur son intelligence. Il faut qu'elle soit intelligente. Comme si dans l'œil des gens, on devait faire un choix entre l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être belle et intelligente en même temps.
Comme le chantait Brel, hein, être beau, 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 beau et con à la fois. Dans la chanson Jackie, voilà.
Tout à fait. Donc, elle n'arrive pas, en fait. L'histoire, c'est qu'elle n'arrive pas à survivre à la perte de sa mère et Catherine va tenter de se suicider le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère parce qu'elle a perdu son repère. Elle n'existe que dans le regard de sa mère. Et quand, comme sa mère n'est plus là, eh bien, elle n'arrive pas à exister. Et à ce moment-là, elle va faire un séjour en psychiatrie et le personnage est un psychiatre elle-même. Donc, c'est très intéressant de voir cette vision-là du psychiatre qui est à son tour psychiatrisé. Et il y a une belle critique de la profession des psychiatres qui, notamment, là, il y a une spécialiste des troubles de personnalité limite. Le diagnostic qu'on lui a posé, qui est absolument affreuse, qui pratique ce qu'elle appelle l'euthanasie psychiatrique, c'est-à-dire on médicamente les patients, on fait des électrochocs jusqu'à les neutraliser. Mais au-delà de la critique en psychiatrie, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de... c'est beaucoup question du regard et des exigences extérieures qu'on intériorise. C'est-à-dire, notamment pour les femmes, et c'est vraiment question de tout ça, les femmes, la question de la beauté, la question du
le rapport
corps,
à l'image, hein, tout ça.
Tout à fait, le rapport à l'image. Puis je trouve ça particulièrement pertinent à l'ère d'Instagram où les jeunes et les moins jeunes mettent leur corps en scène pour avoir des mentions j'aime comme si ceci était garant de leur valeur, si on veut.
Oui.
Donc, on accompagne Catherine un peu dans cette quête, si je pourrais dire, de se séparer du regard extérieur pour trouver en fait qui elle est et s'accorder une valeur. Oui, et je vous dirais que ça prend un sacré courage et un solide sens de l'intégrité pour notamment critiquer les pratiques médicales quand on est médecin, puis aussi pour s'attaquer à ce sujet-là. Plusieurs personnes vont parler de similitudes avec Nelly Arcand, un auteur qui s'est suicidé justement, je crois que c'est en 2010.
Oui.
Et en effet, au niveau des thématiques, du propos, on parle de l'image, on parle de la sexualité, des exigences envers les femmes et tout ça. Donc oui, on se retrouve un peu dans quelque chose qui peut nous faire penser à Nelly Arcand. Le style est complètement différent.
Différent, oui, c'est ça. Oui, oui, oui.
Mais c'est une lecture, moi, que je trouve nécessaire. Elle n'est pas lourde. Elle est profonde, en effet, parce que c'est vraiment un récit intérieur. Là. On est dans le tumulte intérieur de Catherine, mais ça pose des questionnements et on avance avec le personnage aussi dans tout ça.
Oui, parce qu'on n'a pas tous une mère qui s'est suicidée, mais on a tous une image. On a tous un corps et le paraître, c'est malheureusement, un des soucis finalement personnels.
Tout à fait.
C'est fou à quel point on accorde de l'importance à cela, alors que finalement, une fois qu'on est décédé, on s'aperçoit que tout ça n'est vraiment qu'une enveloppe, une dépouille.
Tout à fait. Tranche de vie, je vous dirais que même moi, avec la maladie et tout ça, mon propre regard sur mon apparence a changé. Parce que les priorités vont changer. Là, si mes cheveux sont plus assez beaux ou si là, je dis des choses plus légères.
Mais absolument. Mais on se rejoint bien et je comprends et tout le monde comprend absolument, Yannick. On n'accorde plus la même importance à ce moment-là aux choses.
Non, tout à fait. Et c'est dommage un peu que parfois, parce que pour beaucoup de gens, ça prend un élément perturbateur pour changer ce regard qu'ils portent sur eux-mêmes.
Oui.
Mais l'important, c'est de faire la réflexion et de le faire.
Oui. Bravo Yannick, je vous entends et on dit toujours que les mots sont importants et qu'ils arrivent quand on a besoin de les entendre. Et je suis convaincue que même parmi les auditeurs, c'est un livre important et la façon dont vous nous en parlez aussi. Alors, je vous en remercie beaucoup.
C'est avec plaisir que je le fais, hein, vous le savez.
Oui, Yannick, et c'est un bonheur de le savoir, quoi, tu sais. Alors, merci beaucoup et on se retrouve dans quelques semaines.
Oui, bien sûr.
Bonne fin de journée, bonne lecture.
Merci,
là.
Au revoir.
Ouais, salut. Alors si, comme Yannick Olassa, vous êtes friand de nouvelles lectures, eh bien laissez-moi vous présenter quelques nouveautés. De Grégoire de la Cour, alors écoutez maintenant, le Grégoire de la Cour, l'un sûrement des plus courus, des plus connus, des plus lus en ce moment sur la planète, qui nous présente « Danser au bord de l'abîme ». Évidemment, c'est sorti il y a quelques mois, mais c'est maintenant disponible, à moins que vous passiez peut-être par un autre système numérique, pourquoi pas, notamment par la France. Il est possible parfois de se faire venir quand même des livres assez rapidement. Mais donc, ce livre, « Danser au bord de l'abîme » de Grégoire de la Cour, nous sommes avec Emma, 40 ans, mariée, 3 enfants, heureuse, qui croise le regard d'un homme, un jour, dans une brasserie. Et là, aussitôt, elle sait. Après, on ne voyait que le bonheur, hein, vous vous souvenez, c'était son dernier. Grégoire de la Cour explore dans ce roman virtuose, nous dit-on, la puissance du désir et la fragilité de nos existences. Je suis triste et heureuse d'avoir terminé ce magnifique roman, de dire une lectrice à danser au bord de l'abîme, on risque de tomber ou de s'envoler et mon âme a choisi les deux. Donc, un livre qui, encore une fois, fait parler de lui en bien, « Danser au bord de l'abîme » de Grégoire de la Cour. Un livre pas facile maintenant, mais peut-être nécessaire, « 14 ans et portée disparue » d'Ariel Desabys. des abysses, D-E-S-A-B-Y-S-S-E-S. Et il est question, nous sommes en mars 2000 et quelques, Ariel a 14 ans, c'est une jeune rebelle. Et puis un soir, elle fait semblant de partir pour l'école, un matin, pardon. Alors bon, elle prend l'autobus, tout ça. Puis finalement, elle fait l'école buissonnière et à la tombée du jour, malheureusement, il lui arrive l'improbable, mais qui peut arriver en tout temps, surtout lorsqu'on est une jeune adolescente comme ça, avec l'allure adolescente qu'on peut imaginer. Elle se fait aborder, elle se fait violer, elle se fait maltraiter. Et lorsqu'elle elle se réveille, elle est étendue à plat ventre sur l'asphalte et c'est le début d'un long cauchemar. C'est un livre, vous l'aurez compris, sur l'esclavage sexuel via cette histoire vraie de la jeune Ariel, 14 ans. Allez, on va finir avec un livre jeunesse, La vie compliquée de Léa Olivier, tome 9, Résolution, de Catherine Girard-Audet, la coqueluche, littéralement, de nos jeunes. Tellement la coqueluche, d'ailleurs, que j'ai décidé de l'inviter. Alors, dans quelques semaines, ce sera vers la fin novembre, nous vous en reparlerons, mais je vais recevoir à l'émission Catherine Girard-Audet, qui donc a signé La vie compliquée de Léa Olivier. C'est toute une série de romans jeunesse, et là, c'est le tome 9. Alors qu'il y a une rumeur qui va l'inciter, cette jeune Léa, à devenir une espionne et elle va devenir un peu paranoïaque et pas mal désobéissante pendant ses tribulations. La vie compliquée de Léa Olivier, de Catherine Girard-Audet. Voilà, c'est la fin de cette émission des livres plein les oreilles. Clotilde Seille vous remercie énormément de l'avoir suivi. Merci à son équipe et à André Vincent, Serge Bradet, Yannick Olassa et Nathalie Leclerc. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonne lecture aussi. À la semaine prochaine. Salut.